Bienvenue dans la maison de Dieu en esprit avec l'Église universelle et aussi virtuellement avec vous qui nous avez rejoints sur le site de l'Église protestante de Bligny. En guise de salutation, j'aimerais paraphraser le début de l'épître de Paul à Philémon. Épître de Paul à Philémon, trois premiers versets. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Jean-Luc, confiné chez lui, et les frères qui ont permis de réaliser ce moment, à vous tous, nos bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, et compagnons de combat, à l'église qui est dans vos maisons. Que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Notre Père qui es dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui, oh, le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont fait du tort. Et nous ne laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Tout est dit dans la prière que tu nous as laissée, Seigneur. Puissions-nous la faire nôtre en tout temps. Amen. Je vous invite à un moment de recueillement en écoutant ce chant, Majesté.
Parfait, car tu t'es dépouillé pour te
Je vous invite à une lecture. Évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 à 30. Luc 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Devant l'expansion massive de la pandémie, nous pourrions nous poser la même question. Seigneur, quand viendra ton royaume? Que cette question soit proclamée en connaissance de cause, ou comme les pharisiens en provocation, la réponse de Jésus sera la même. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mieux, c'est vous, Église de Jésus-Christ, qui formez ce royaume. Il est évident que, dans les moments que nous vivons, nous ayons le désir de voir le jour du Seigneur, et nous ne le voyons pas. Mais Jésus nous met en garde. Si vous entendez qu'il est là ou là, n'y allez pas, ne courez pas après. Jésus reviendra, c'est un fait, mais comme un éclair, comme un voleur, nous dit un autre texte. Nous devons être prêts à tout moment, épidémie ou pas. Notre mission à nous, Église, est de prévenir notre génération que Jésus revient. Ce que nous vivons ne sont que des signes précurseurs et certainement une alarme de Dieu de nous préparer à le rencontrer. Du temps de Noé, les hommes virent la construction de l'arche. Ils ont eu le temps de se repentir. Tant que Noé était là, rien ne s'est produit. À nous, Église, d'être des Noé, d'être des exemples de foi pour que le monde indifférent soit touché. Glorifions notre Dieu qui nous prévient. Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Prions. Père éternel, notre Seigneur, devant ce qui nous entoure, nous ne pouvons pas être indifférents. Nous te recommandons à ta grâce tous ceux qui sont en première ligne pour assurer les soins de santé. Nous t'apportons tous ceux qui sont seuls pour affronter cette épreuve. Nous pensons à ceux qui s'interrogent. Nous te prions pour nos autorités, qu'elles puissent prendre les bonnes décisions. En Église, nous voulons lever les yeux vers toi et nous unir pour proclamer que malgré la souffrance et la tristesse, tu es là à déverser ta tendresse et ton amour. Amen.
Quand le vol de la tempête vient à rassombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. La route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage, qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.
Le texte de l'évangile de Luc donnait réponse aux pharisiens qui demandent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Jésus ne fait pas du tape à l'œil, il reviendra comme un voleur discret, dans un éclair, en une fraction de seconde, pas dans une production hollywoodienne. Nous sommes aujourd'hui le dimanche avant Pâques, dit dimanche des rameaux. Appelé de la sorte en rapport avec le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, où les gens lui faisant honneur déposaient sur le chemin devant lui leurs manteaux et des branches de palmier. Le détail des branches est rapporté dans l'évangile de Matthieu. Pour notre méditation de ce matin, je vous propose deux lectures qui vont compléter celles que nous avons déjà partagées dans Luc 17. Évangile de Luc, chapitre 18, versets 31 à 34. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. » Et après l'avoir battu avec un bâton, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Elle ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et une deuxième lecture, un peu plus loin. Chapitre 19 de l'évangile de Luc, toujours, versets 29 jusque 39. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Jusqu'ici, les lectures, prions. Encore une fois, devant ce texte, Seigneur, nous voulons te demander ton esprit. Que ton esprit nous éclaire et nous fasse vraiment comprendre le message que tu as à nous dire ce matin. Que je ne sois pour toi que un simple haut-parleur pour mes frères et ceux qui nous écoutent. Seigneur, sois béni. Et qu'à ta revienne toute la gloire. Amen. Devant la déferlante de cette pandémie mondiale, Covid-19, nous pourrions nous interroger et ne pas comprendre. Personnellement, avant le tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan Indien, qui ravagea entre autres la ville de Phuket, je n'avais jamais entendu parler de ce mot « tsunami ». Pourtant, en 1600 avant Jésus-Christ, l'éruption du volcan de l'île grecque de Santorin provoqua un tsunami avec des vagues d'une vingtaine de mètres qui contribua à la disparition de la civilisation en Crète. Oh, et bien d'autres ont suivi. De même, la pandémie est connue depuis longtemps. Le mot pandémie nous vient du grec pandemia, qui signifie le peuple tout entier. Il est employé pour la première fois en anglais en 1666 par le médecin britannique Gideon Harvey dans son livre sur la tuberculose. Il n'apparaît en français qu'en 1752 dans le dictionnaire de Trévoux. Cette chose atroce est connue depuis longtemps. Mais pour moi, je n'y ai jamais pris attention. Pourquoi? Parce que ça ne me touchait pas jusqu'il y a un mois, où non seulement j'ai découvert le mot, mais les ravages et les conséquences qu'il y avait derrière. Tant que nous ne vivons pas quelque chose, nous ne nous y intéressons pas. Et si nous en avions entendu parler avant, nous n'aurions peut-être pas compris ou pas voulu comprendre. Parce que ça ne nous intéresse pas, ou peut-être aussi que ça nous dérange. Jésus dérangeait les autorités religieuses de son époque. Pourtant, elles étaient au courant de la venue du Messie qui libérait le peuple de Dieu. Mais devant la présence physique de Jésus, les chefs religieux sont perturbés. Jésus ne correspond pas à leur vision du Messie. Ils ne comprennent pas. Alors, ils interrogent. Quand est-ce que viendra le royaume de Dieu? Sous-entendu, si tu es ce que tu dis, alors montre-nous ta puissance. Montre-nous la puissance de ton règne et libère-nous. Le peuple juif de l'époque de Jésus est sous l'emprise de l'Empire romain et n'espère qu'une chose, être libéré. De même aujourd'hui, quand nous regardons la carte du monde, nous n'avons qu'un désir, être libéré de ce petit machin qui nous fait peur, nous emprisonne, nous cloisonne, nous isole. L'homme n'est pas fait pour vivre solitaire. Il a besoin d'espace, de contact, il veut respirer. Et si une femme ou un homme venait apporter la solution pour éradiquer la pandémie, il ou elle serait porté en triomphe. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus, le jour dit des rameaux. La foule, les disciples et ceux qui sont de passage à Jérusalem, crièrent: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Hosanna! Enfin quelqu'un qui va nous sauver, notre libérateur! Pourtant, Jésus avait bien dit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ils étaient prévenus, aussi bien les disciples que les pharisiens. Ils avaient tous la Torah, les prophètes et les écrits. Ils auraient dû discerner les prophéties concernant le Messie et les comparer à Jésus. Quand Jean-Baptiste, du fond de sa cellule, fait poser la question à Jésus: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Voici sa réponse: Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. À l'entrée de Jésus à Jérusalem, tout le monde aurait dû savoir que Jésus était le Messie. Mais tout le monde, même les disciples, n'ont pas compris, ni pris garde au dire de Jésus lui-même. Et je vous relis le texte que nous avons déjà lu pour nous y imprégner. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu avec un bâton, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. Les disciples ne comprennent pas. Pourtant, c'était écrit par les prophètes. Ne blâmons pas les disciples, nous ne sommes pas mieux qu'eux. Nous avons les Écritures, mais nous ne comprenons pas, ou nous n'avons pas envie de comprendre. Ou encore, nous adaptons ce qui est écrit à ce qui nous semble bon. C'est comme ça doit arriver. C'est écrit. Bon, ouais, c'est écrit. Tout comme ce détail de l'âne. Et apparemment, toute la foule connaît la prophétie de Zacharie 9:9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. C'est l'évangéliste Matthieu qui reprendra cette prophétie. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ça ne choque personne que Jésus soit sur un âne. Tous, apparemment, sont convaincus que c'est bien le Messie annoncé et attendu. Même les propriétaires de l'ânon sont au courant. Et ne créent aucun problème quand ils entendent que le Seigneur en a besoin. Nous avons tendance à nous arrêter sur les détails et nous ne voyons plus le royaume de Dieu qui ne vient pas frapper les regards. Les Juifs attendaient un Messie glorieux qui les débarrasserait de l'envahisseur romain. La prophétie de Zacharie le disait juste et victorieux, même s'il n'était monté que sur un âne. Ils avaient certainement l'espoir que l'événement de cette entrée, peut-être un peu ridicule, allait se transformer en guerre éclair, tel un cheval de Troie pour entrer et tromper l'ennemi. Sans doute n'était-il pas au courant que toute la puissance et la gloire de Dieu avaient fait naître son fils, dit le Messie dans une mangeoire à vache. Allait-il se confondre en triomphe démesuré, tel un roi humain? Non, ce n'est pas revêtu d'une armure de guerre que Jésus se rendra à Jérusalem, mais dans un habit de douceur. Matthieu transcrira la prophétie de Zacharie en roi plein de douceur. Rappelons-nous que Matthieu était un des disciples de Jésus et que ses écrits ont d'autant plus de crédibilité qu'il a vécu avec lui au quotidien. Écoutez les paroles qu'il rapporte de son maître. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'évangéliste Luc, lui, nous fera retourner aussi à la naissance de Jésus. Relisons une fois de plus le cri que pousse la multitude des disciples. Il disait: Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Si nous relisons juste le début de l'évangile, Luc 2, versets 13 et 14, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Ce roi, humble serviteur, est apparu comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, nous écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 8. À la joyeuse entrée prévue par le protocole royal, Jésus optera pour la rudesse du dos d'un ânon. Et aux marques de reconnaissance des grands de ce monde, il préféra le dénûment et partager son sort avec des condamnés ordinaires. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Nous avons tendance, en tant qu'êtres humains, à regarder autour de nous. Aujourd'hui, que voyons-nous? Une pandémie. Tout le reste est devenu superflu. Même les pays en guerre ont décrété un cessez-le-feu. Le monde tremble, même les prisonniers, petits voleurs ou grands criminels, tous ont peur. Oh, il est loin l'adage qu'une petite bête ne peut pas manger une grosse. Le coronavirus tue. Plus rien n'y fait. Les milliards débloqués ne l'arrêtent pas. Les frontières sont des passoires. Il faut absolument un masque d'un tel numéro pour espérer être protégé. Faire les courses est un traumatisme permanent. Tels les disciples dans la barque sur la mer déchaînée, qui ne voient que la tempête, Jésus apparaît comme un fantôme. Nous pourrons nous dire que dans cette épreuve mondiale, Jésus est fantôme. Et pour revenir à notre texte, il n'est peut-être qu'un homme sur un âne, sans plus. Nous pouvons y croire, l'applaudir même, mais le plus important est de le rencontrer. Il nous faut sortir du bateau pour aller vers lui sur la mer. Il nous faut le suivre sur le chemin qui mène à la croix et le voir ressusciter 3 jours après. Ne soyons pas comme les gens du temps de Noé qui avaient vu la construction de l'arche et restaient indifférents, sceptiques, égoïstes. La foule qui voyait Jésus entrer dans Jérusalem criait sa joie de libération. Comme Jésus n'était pas ce qu'ils attendaient, les gens plus tard auront un autre cri. Crucifie, crucifie. Comment l'homme est-il si versatile? Rien n'a changé. Quand ça ne va pas comme je veux, ou comme ça m'intéresse, ou quand ça ne me touche de près, alors je critique, je rejette ce que j'ai mis à l'honneur quelque temps plus tôt. J'en ai pour exemple des médecins, infirmières, personnels soignants, qui sont confrontés avec le Covid-19 et rejetés quand ils veulent rentrer chez eux, parce qu'ils sont potentiellement contagieux. Rien n'a changé. Jésus s'est abaissé pour sauver le monde du plus grand des virus que la Terre ait jamais pu porter, ni encaisser le péché. Ce Jésus a été rejeté et mis à mort. Ah oui, j'oubliais, il paraît qu'on ne peut plus parler du péché, parce que ça traumatise les hommes et les femmes. Mais alors, de quoi devrions-nous être sauvés? Malgré les cataclysmes annoncés par les prophètes et par Jésus lui-même, regardons le jour de notre délivrance. Pas le 19 avril, date de fin potentielle de confinement, mais ce jour où notre Seigneur viendra. Mais attention, ce royaume ne viendra pas de manière à frapper les regards. Sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts maintenant? Que voyons-nous? La mer agitée, l'âne porteur, la croix de bois, ou Jésus, doux et humble de cœur, qui nous tend la main pour nous sortir de l'eau, et qui sur cette croix nous accorde le pardon, qui nous ouvre la porte du salut. Si vous êtes prêts à suivre Jésus, je vous donne rendez-vous vendredi pour la crucifixion et dimanche pour la résurrection annoncée d'avance. Que ces temps de confinement nous fassent prendre conscience que notre vraie vie n'est pas terrestre, mais éternelle. Dans les cieux, avec notre Père, dans son royaume. Amen.
Qu'est-ce donc pour moi?
Ce culte touche à sa fin et en synergie avec Herstal Serrat, je vous invite à visiter aussi leur site. Et puis Herstal Serrat. Que cette semaine vous soit agréable malgré le confinement. Prenons le temps de relire le récit de la Passion qui nous mène vers Golgotha et Pâques. Et comme j'ai commencé avec le début de l'épître à Philémon, j'aimerais terminer ce moment en paraphrasant aussi la fin. Épître à Philémon, verset 22. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. En même temps, préparez-vous à vous retrouver dans notre lieu de culte, car nous espérons nous être rendus libres de ce confinement par nos prières. En paraphrasant, en famille confinée, nous vous saluons ainsi que Henri, Daniel, Guy, Jacqueline, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Que sa paix vous accompagne. Amen.
Reçois tout son pardon et sa paix.